5, 4, 3, 2, 1.
Pas de blabla. Une émission de Patrice Salin. On parle culture, on n'y va pas par quatre chemins.
C'est Bernard Cardraon qui a touché, comme ça, il a fait un truc comme ça. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Évasion dans une nouvelle émission de Pas de Blabla. Patrice au micro, Monsieur Seb à la réalisation technique. Alors il y a du monde ce matin et nous sommes avec Tudy Créquer. Tudy, bonjour.
Bonjour.
Bernès Cardraon, bonjour.
Bonjour, Dejmat.
Et puis il y a Annick Pouliquen et Olivier. Bonjour Annick.
Bonjour.
Et bonjour François Lebris.
Bonjour.
Bonjour François. Ça fait du monde. Alors pour qui, pourquoi, on va tout vous expliquer après un premier morceau musical. On n'a jamais, Monsieur Seb, reçu autant de monde. Non, franchement, oui. Que ce soit dans l'instant C ou dans Pas de Blabla, autour du micro. Non, oui. Franchement, Monsieur Seb, allez-y. Hop, j'ai le micro, voilà, très bien. Pink Floyd, pour débuter, Pas de Blabla. Tudy Créquer, merci Tudy d'être là.
Ben, merci de l'invitation.
Ah, je suis ravi, depuis le temps que nous étions en contact, et il fallait trouver une bonne date.
Oui.
Et donc, c'est celle d'aujourd'hui. Tudy, tu es doctorant à Rennes 2.
Oui, c'est ça, oui. Voilà.
Et donc, tu continues toujours à faire de la recherche, donc, comment on peut dire, sur les enregistrements.
C'est ça, le terme précis, là, le titre de ma thèse, c'est les prémices de l'enregistrement de langue bretonne. Donc, tout ce qui est enregistrement du breton, de notre langue, donc de Basse-Bretagne, entre 1900 et 1920. Donc, vraiment les plus anciens témoignages enregistrés sonores de notre langue, quoi.
Qu'est-ce qui, bah, bon, parce que tu as été journaliste à France Bleu aussi également.
Oui.
Hein, tu es toujours journaliste d'ailleurs, tu es toujours à la pige, etc.
Toujours, c'est, dans le métier.
Voilà, c'est ça, c'est un métier qui, tout gamin, t'avais cette idée-là ou pas?
Non. Ah oui, mon premier stage à la radio, c'était un stage de quatrième. Donc j'avais été à Arvorik FM.
Ah oui.
À Landerneau et d'accord. À Radio Brode Joinet, donc à Pontivy aussi, pour faire des stages. Donc très vite, il y a eu cette idée qui a germé. Ouais.
Tu as grandi dans ce milieu bretonnant là?
Ouais. Ma mère était bretonnante de naissance, donc elle avait appris
donc,
le breton.
Donc du Cabé, hein, t'es originaire du Cabé.
Ouais, du pays Pourlette, ouais.
Du pays Pourlette. Donc ça, c'est Guémené, tout ça.
Ouais, voilà. Juste à côté de Guémené, ouais. Oui. Ouais. Et donc, j'ai grandi à Pincran.
Annie qui fait des yeux. Bah, c'est la lune pour elle, apparemment. Oui. Est-ce quand on est de Ploudiry, on ne sait pas trop où est le pays pour l'être. C'est une magnifique région.
Mais moi, j'ai toujours grandi à Landerneau, quoi. Et j'étais en école bilingue à Jules Ferry, Mesquad, lycée de l'Élan, donc toute la filière bilingue. Donc, le milieu breton et en langue bretonne, j'ai été dedans tout petit, ouais.
Alors, pourquoi tu dis Créquer est là avec nous ce matin? Parce que j'avais découvert par les médias aussi cette histoire absolument incroyable. Donc, tu travaillais sur les enregistrements d'un anthropologue qui était médecin aussi, je crois.
Ouais.
Léon Azoulay.
Oui, exactement.
Qui avait donc couvert la foire. Exposition universelle,
l'exposition
qu'on dit.
Exposition universelle, hein.
Ouais.
Marplich.
Exposition universelle de 1900 à Paris. Bernard Cardron m'a appris que ça avait duré 6 mois. Je ne savais pas que ça avait duré si longtemps, cette exposition universelle. C'est incroyable. Mm. Et Léon Azoulay était venu avec un phonographe. Et il enregistrait toutes les langues du monde, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est un personnage un peu atypique, Léon Azoulay, qui était dans la Société d'anthropologie de Paris. Et en 1900, il propose aux membres de cette société, qui est une société scientifique très importante en France et donc dans tout le monde occidental, donc dans tout ce qui est les sociétés dites civilisées. C'est vraiment une société qui est importante, une société scientifique. Et donc lui, il est même dans le conseil d'administration. C'est un peu un personnage. Ah oui. Et il va proposer ce projet un peu dément, un peu fou, de profiter de l'exposition universelle, qui est là aussi un événement complètement dément. C'est 50 millions de personnes en 6 mois. Donc c'est le plus grand événement qu'il y a jamais eu à ce moment-là dans le monde. 50 millions de personnes, il n'y a pas l'avion. Donc les gens viennent en bateau, ils viennent à cheval, ils viennent en char à banc, ils viennent à pied jusqu'à Paris, du monde entier. Donc c'est quelque chose de complètement incroyable. Et c'est là
et donc les Bretons ont débarqué là-bas.
Et oui. Oui, il y en a qui viennent avec avec leurs vaches, avec leurs chevaux, vendre du lait, faire des crêpes. Et il y a un village breton. Donc en fait, tous les grands pays ont leur pavillon. Donc il y a le pavillon chinois, le pavillon japonais, le pavillon belge, le pavillon suisse, le pavillon britannique, le pavillon colonial aussi français, parce qu'on est encore évidemment dans cette période. Madagascar vient d'être colonisé aussi. Donc il y a des tribus malgaches qui sont présentées à l'exposition universelle, donc c'est aussi toute cette ambiance. Hein. Et il y a un village breton qui est créé aussi à l'initiative de Bretons, d'hommes politiques, de grands intellectuels. Et parmi là, donc il y a toute une bande de Bretons de Basse-Bretagne, de Haute-Bretagne qui se retrouvent pour fêter la Bretagne pendant 6 mois.
Et donc, si Bernard, Annick et François sont là avec nous ce matin, c'est parce que leurs ancêtres étaient présents à cette foire, cette expo universelle.
Ouais. Donc Sébastien Lebot et Aline Lebot, dont on va parler un peu dans cette émission, étaient présents. Sébastien Lebot, c'est le père d'Aline, et Sébastien y était pour vendre du lait. C'était le laitier qui était présent sur le village breton pour vendre du lait aux touristes qui étaient sur Paris.
Et donc, tu m'as dit, Bernard, qu'il y avait combien de Bretons à cette expo? Tu m'as parlé d'un chiffre tout à l'heure, non? Il y avait près de 400?
Non, ce que j'ai dit, c'est que, mais tu dis le dira mieux que moi, c'est qu'il y a à peu près 400 enregistrements qui ont été faits par Léon Azoulay.
Ah oui, d'accord.
Ouais, c'est ça. 400 enregistrements, mais de toutes les langues.
De toutes nationalités.
De l'allemand, de l'anglais.
Ok, ouais. Et donc, forcément, ce qui est incroyable, ça, Bernard a entendu
Donc, enfin, il y a une histoire de famille. Alors, je sais pas comment. Vas-y, tu dis moi, je te laisse faire parce que du coup, tu maîtrises mieux que moi cette histoire-là.
En fait, moi, je me suis passionné par cette histoire quand je suis tombé sur les enregistrements de Léon Azoulay. Donc, c'est les plus vieux enregistrements de langue bretonne.
Voilà.
Juillet 1900. Donc, c'est la première fois qu'on enregistre la langue bretonne. En tout cas, c'est les témoignages les plus anciens qu'on a.
Incroyable.
Donc, moi, j'étais super ému à l'écoute de ça, d'écouter ses voix, ses chansons.
Oui.
Et donc, je fais un premier mémoire de recherche à l'université de Rennes qui donne lieu donc à publication à la faculté et ensuite j'écris des articles parce que comme tu le disais je suis journaliste aussi et moi j'ai envie de partager tout ça quoi.
Ben oui.
Donc je fais des articles et c'est paru
on aime bien raconter des histoires
mais oui et cette histoire est incroyable
et là, c'est incroyable
donc j'écris un article notamment pour le magazine Armen et c'est là que Bernès rentre dans le jeu
qui découvre l'article Bernès
voilà.
Je crois que c'est important que je donne aussi des précisions pour être le plus exact. Effectivement, cette histoire est une belle histoire. Dans les premiers jours de janvier, donc j'ai deux de mes sœurs, Christiane et Véronique, qui vont voir une tante, qui est une sœur à Annick, donc Simone, pour lui souhaiter les vœux. Et lorsqu'elles vont voir cette tante, là, il y a une copine à ma tante qui vient la voir avec sous le bras la revue Armen du mois de juin 2022. En lui demandant, mais dis donc, toi t'es de Poudiéry, ça te dit quelque chose, le nom de Sébastien Lebot ? Et Simone de dire, bah, bien sûr, c'est mon grand-père. Et donc ma sœur, Christiane, après, photographie l'article, on ne dira pas à tout le monde, et envoie ça à ses frères et sœurs, moi je regarde qui a écrit, tu dis Créquer, mais... Ce garçon-là, je le connais, moi. Enfin, on se connaît depuis quelques années. Mmh. Et me souvenant qu'il était en Irlande, je lui envoie un mail à 22h. À 4h du matin, il me répond. Moi, je dormais, bien sûr. Il me dit, écoute... parce que moi, je lui dis, sache que moi, je suis descendant de Sébastien et Aline Lebot. Il me dit, ouais, ça serait sympa, je voudrais t'interviewer et tout. Écoute, je lui dis, je suis peut-être pas le mieux placé pour ce travail-là. Moi, j'ai trois tantes et un oncle. S'ils acceptent, je pense que ça serait mieux parce qu'ils sont plus près de cette histoire-là.
Oui, dans la hiérarchie familiale. Quoi.
Voilà. Et donc, je vois, en tant que grand démocrate, je vois avec mes tantes et oncles qui sont chacune mes tantes préférées. Et,
d'accord.
Et bien sûr, elles ont toutes dit oui. Elles étaient super contentes. Et puis. Et après l'histoire s'est enchaînée. Après j'ai la chance d'avoir un frère et une sœur, Christiane et Jean-Yves, qui font la recherche généalogique de la famille depuis longtemps. Donc tout ça s'est enchaîné. Et le dernier contact, c'est François qui est ici présent et qui est aussi encore plus près de la vérité que nous. Donc
parce que François c'est le petit-fils
d'Aline
Lebot.
Je suis le fils d'Armand, Marie Armande, qui est la fille aînée d'Aline. Mmh. Et donc, ma grand-mère, j'ai très bien connue, bien sûr, c'était le quartier de Carré-Gré-Juvel à Landerneau.
À Landerneau, d'accord.
Et donc, mes grands-parents se sont connus, justement, à l'exposition internationale de 1900.
Et François ne connaissait pas Tudy, et vous venez de vous rencontrer ce matin.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est une première rencontre.
C'est chouette, ça te fait
Radio-Évasion. Merci, Radio-Évasion.
Bernard non plus.
Non, Bernard, tu n'avais jamais rencontré Bernard.
Nous, mais il y a très longtemps.
Et Annick, il y a longtemps, avec François.
Oui, sa sœur Simone, la sœur d'Annick, Simone, je me souviens très, très bien de la rencontrer dans Landerneau, parce que j'allais à l'école à Landerneau. Et souvent, le samedi, Simone venait au marché à Landerneau et souvent, on se rencontrait.
Donc, tu dis, tu as remué toute une famille, en fait, là, tu as rapproché les gens.
Oui, ouais, c'est un peu ça, c'est ça qui est incroyable
ça, avec ces vieux enregistrements. C'est très valorisant, en fait, aussi.
Ouais.
Hein, ça doit être... Et puis, c'est un côté très chaleureux, très authentique.
Et puis, pour moi, c'est incroyable aussi, parce que j'ai écouté ces voix, les voix de Sébastien et Aline pendant des mois et des mois. Et là, j'ai un peu plus leur histoire. J'avais des dates un peu généalogiques, mais là, j'ai leur histoire. Comment ils étaient, comment ils se comportaient, qui étaient-ils, quoi. Et donc, ça, c'est vachement émouvant, parce qu'on met de la chair, de l'histoire, de la vie, derrière juste des voix qui étaient sans nom, il y a encore quelques années, quelques mois, presque.
Et puis, quelle chance pour votre famille, Bernard, Annick et François, d'avoir des traces, des voix.
Moi, j'ai envie de dire que c'est une chance parce que par rapport à mon histoire personnelle, mais qui est aussi vraie pour mes frères et sœurs, on a une maman qui est décédée, elle n'avait pas 63 ans. Sa propre mère, notre grand-mère, est décédée, elle avait 49 ans, donc c'était en 1951. Donc il y a des maillons de l'histoire de la famille qui ne se sont pas bien transmis. Et avec cette histoire, à cause ou grâce à Tudy, je veux dire, ça fait un bouillon de culture sympathique, là. Et aujourd'hui, les gens... Il y a un peu une surenchère pour dire « Ah oui, je me rappelle de ça, je me rappelle de ça. » Et ça a permis, par exemple, de rencontrer François, qu'on n'aurait pas eu peut-être l'occasion de jamais rencontrer.
Ou de revoir pour Annick, etc.
Et je crois que c'est quelque chose d'important. Il se trouve qu'avec François, on a des... On va dire, on connaît des gens communs, des centres d'intérêt communs, etc. Et... As-tu dit qu'il actuellement fait une thèse sur le sujet, les enregistrements? Moi, je suis en train de découvrir que, au-delà de la passion que je peux avoir personnellement aussi pour l'histoire de la langue bretonne, je veux dire, c'est tout l'aspect sociologique et ethno-sociologique ou ethno-musicologique qu'il faudra travailler par derrière, parce que c'est tellement vaste, c'est tellement intéressant. Et aujourd'hui, nous, notre mission, elle est simple, c'est d'être les passeurs d'une mémoire, d'une famille, aux jeunes générations, mais aussi aux générations à venir. Enfin, voilà comment j'ai envie de me situer, tout simplement.
Je comprends. Très bien. Les amis, on va pas prendre trop de retard sur le fil de l'émission Pas de Blabla. Merci d'être là ce matin. Une pause musicale, c'est le choix de Bernès Cardaron. Il nous expliquera rapidement après, et puis on continuera à bouillonner avec cette histoire familiale.
Qui chen chapel ik san Michael mint in abret ombet va unan qui chen chapel ik san Michael a tro a tro Stanke din prenestra bit a tro ar dro ar brumen a stanke din prenestra bit a felipe I'm tardait à l'air brumé. Et qu'on a mis les années. Mais tous en noir, en théol, hasard.
Yoann Guernic, Tuchène Michael, je prononce correctement, hein?
Ah oui,
Tuchène.
Oui, oui. C'est parfait. Matré.
Bernès, c'est ton choix musical, ça?
Oui.
Tu peux nous expliquer pourquoi?
Ah, pour plein de raisons. Hein. La première, c'est que Yoann Guernic, au niveau du chant breton, c'est devenu quelqu'un d'incontournable. Yoann Guernic, originaire de Sker, qui a vécu pendant 10 ans à New York. Et qui a...
La Grande Tribu, ce livre-là.
Voilà, qui a fait beaucoup de chansons et en anglais et en français, et en breton et aussi en français. Hein. Et que moi, je trouve que pour moi, Yoann Guernic, c'est quelqu'un de très inspirant, notamment dans une de ses chansons, la chanson Identity, qui est trilingue. Hein. Il le dit Nos doigts qu'est-ce sont, j'kein, peler, ou abedgan et dundin, nage ou amaner, penti, pekrau. Boud bedganet au feno barewa. Ils ne savaient plus où ils étaient nés. Est-ce que c'était dans un château, une maison ou une crèche? D'être né était leur chef-d'œuvre. Et je crois que ça s'applique aussi à chacun d'entre nous sur cette terre. L'important, c'est qu'on soit là. Et grâce à cette histoire, j'ai envie de dire à cause ou grâce à Tudy Kreker, Tudy participe à donner aux Bretons la fierté de leur langue. Pourtant, notre langue, elle a été bafouée en 1914, pendant la guerre. On disait les patates aux cochons, les épluchures aux Bretons.
Ah,
on a fait la honte de notre langue. Et aujourd'hui, si on a la fierté, moi, je dédie cette fierté aux gens qui ont souffert de la langue.
Et ému, Bernès, merci.
Ah, complètement.
Tu dis, moi j'ai l'impression d'être dans le bouquin d'H.G. Wells, La machine à remonter le temps, que tu me présentes cette photo aussi de, pas sur l'émotion de Bernard, très 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 beau ce que tu viens de dire Bernard, mais la seule photo alors de l'exposition universelle du village breton.
Oui, c'est
fou ça.
Ouais, c'est une photo qui a été prise, donc on voit dessus une reconstitution d'une chaumière bretonne, d'une taverne aussi sur le modèle des maisons de la rue Noble de Morlaix. Il y a un menhir aussi, il y a la croix aussi, croix calvaire de Pincran. Donc moi j'étais tout ému aussi parce que je suis de Pincran, donc je trouvais ça incroyable que ça se retrouve à l'exposition universelle de Paris. Et il y a cette photo, donc on voit tous les Bretons, Bretonnes en costume présent sur le village breton, sans doute un jour où il y avait ce fameux cabaret breton où ils se retrouvaient pour chanter, danser. Il y avait aussi des sonneurs qui avaient été invités. Donc, on voit qu'il y a du monde.
Ouais,
quoi.
C'est dur en même temps d'imaginer. On se dit, waouh, on est un peu. Je sais pas, tu dois vivre dans une espèce de bouleversement permanent, toi, non? Tu dis, comment ça se passe? Une espèce de machine à laver, comme ça.
Je trouve ça assez fou.
Tu hurles des fois ou quoi?
Il y a un auteur qui parle des enregistrements, mais ça s'applique aussi pour les photos, comme des machines à fantômes. Et je trouve ça beau comme expression, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a l'impression...
Des machines à fantômes ?
Oui, oui. Donc, comme si
qu'est-ce qu'on entend par là, là ?
Oui, des machines à remonter
pas
le temps
chose,
un peu, mais que
ouais.
des fantômes du passé puissent encore nous parler quelque part. Donc, il y a quelque chose qui est un peu intriguant, qui est le bouleversant, parce qu'on sait que ces personnes sont... par exemple, Aline, qui a été enregistrée en 1900, décédée il y a plus de 50 ans, en fait, elle nous parle toujours et peut-être qu'elle a toujours des choses à nous dire. En tout cas, on peut toujours
elle est peut-être
interroger.
Là dans le coin.
C'est ça. Ben... Donc, il y a quelque chose de, oui, qui touche à l'intime et qui est vraiment assez bouleversant, comme tu le disais, ouais.
Oui, c'est vrai. Et moi, je suis aussi un peu plongé dans tout ça, et j'avoue que c'est assez émouvant. Oui, ça donne une sacrée émission. Une toute petite pause, monsieur Seb.
Pad, bla, bla.
Pad, bla, bla.
Pad, bla, bla. Pad, bla, bla.
Alors évidemment, on parle de voix, d'enregistrement, etc. On va écouter la grand-mère de François Lebris tout à l'heure. Annick, tu es bien silencieuse dans ton coin. Alors qu'est-ce que donc Annick, qui est une tante de Bernard, hein, on
oui.
est bien d'accord. Hein,
oui.
Hein, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, toi, Annick?
Pour moi, c'est une grande fierté aussi. Hein. On découvre. Voilà, je suis donc la plus jeune petite fille de Sébastien Lebotte.
La plus jeune petite fille de Sébastien Lebotte.
Oui.
Donc, on n'entendra pas aujourd'hui parce qu'on entendra Caline, mais on entend chanter Sébastien, c'est ça, hein ?
Oui.
Ouais. Et ça, la première fois que tu l'as entendu, alors qu'est-ce que ça t'a fait, Annick ?
Ben, on a été très émus parce qu'en fait, c'est Tudy qui nous l'a fait écouter. Donc,
ouais.
on était juste en famille. Peu de temps après la découverte donc de l'article, et en fait on a été tous très heureux de connaître tout ça, et en fait de rassembler quand même la famille et de chercher.
Et tu dis parle de machine à fantômes, mais
oui.
moi je prends ça très au sérieux, mais c'est une question à, je sais pas, mais on a l'impression qu'il était là, de Sébastien ou Aline, ou qu'est-ce que est-ce qu'on sent quelque chose, je sais pas moi, parce que il y a un tel rapport,
oui.
une telle entre guillemets, je sais pas, filiation, je sais pas comment on peut dire ça. Tu dis il y a peut-être un mot pour ça, une relation familiale, je sais pas, un truc. Qu'est-ce qu'on ressent vraiment,
en fait, c'est un petit peu comme dit Bernard. Donc la maman de Bernard avait 20 ans de plus que moi. En fait.
Ouais.
Donc, il y a une génération entre Bernard et moi, en fait.
Oui, oui, oui.
Et...
Il y a des écarts.
Il y a des écarts, oui. Mais, en fait, ça n'a pas été transmis non plus, en fait, parce que nous, notre maman, elle est décédée à 49 ans. Et je n'avais donc que 8 ans.
C'est jeune.
On était 9 enfants, donc il y avait autre chose à faire que de transmettre tout ça, quoi, en fait.
Oui, bien sûr.
Et voilà, donc c'est resté un peu, voilà, chacun après est allé de son côté, c'est resté un peu dans l'inconnu un petit peu.
Est-ce que
voilà.
ce serait, parce que bon, c'est un drame, j'imagine, Annick, quand tu perds ta maman et quand on a 8 ans.
Oui.
C'est tellement tôt.
C'est, oui.
Est-ce qu'on prend cette histoire comme... Ah, je sais pas, c'est pas le mot exact. Comme une récompense ou un cadeau, je sais pas. Quelque chose qui fait que la famille... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, mais
j'ai un peu de mal, tu dis, tu vois, j'ai un peu de mal à... comme si c'était un soulagement, peut-être. Dire, tiens, on entend des ancêtres, donc ma maman est partie trop tôt. Tiens, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose, je sais pas...
Oui, en fait,
je m'exprime très mal.
Alors,
non,
alors, comment... C'est-à-dire qu'on avait quand même des grandes sœurs pour s'occuper de nous. Et on avait la famille.
Oui.
On n'a pas été
dont
malheureux.
Dont la maman, du coup, de Bernès, qui avait 20 ans.
On n'a pas été... On ne va pas dire qu'on a été malheureux.
Oui, d'accord.
On a appris à se débrouiller. Et maintenant, vraiment, on est tout heureux, tous, de retrouver, comme Bernard aussi, de retrouver l'histoire de la famille. Et François va nous apprendre encore beaucoup plus de choses, en fait, puisqu'il était plus près, c'est sa grand-mère Aline.
Ben oui.
Donc, Bernard et François sont de la même génération.
Bon, j'imagine que François, il a. Ce sera. Normalement, c'est prévu. Alors, je te le dis, François, c'est prévu à 10h44, normalement, d'entendre ta grand-mère chanter. C'est quand même incroyable. Ah, du coup, elle avait quel âge, tu dis, Aline Le Bot?
Elle avait 17 ans.
Ah oui, elle a 17 ans. C'est une jeune femme, quoi.
Ouais, ouais, elle est vraiment toute jeune. Et ça, c'est vraiment aussi assez exceptionnel d'entendre du breton.
1883, c'est ça?
Oui, 1883. J'entends
François qui dit la date de naissance.
Là, c'est souvent, on a tendance aujourd'hui à dire. Enfin, écouter des enregistrements pour avoir du beau breton. Des enregistrements de personnes âgées.
Oui.
Et ben là, on a du breton qui était dans son jus, en quelque sorte, vraiment dans la société rurale de Basse-Bretagne à l'époque, où tout le monde parlait breton.
Ben oui.
Et là, c'est une jeune de 17 ans qui nous parle, qui nous dit, on va l'écouter tout à l'heure, mais c'est assez incroyable ça, d'avoir un témoignage de jeune, en fait.
Ben oui, c'est vrai, parce que ça me fait penser, Bernard, à ce qui se passe à Plougastel actuellement. À récolter la mémoire des anciens, donc je ne rencontre que des anciens, finalement, à Plougastel, pour enregistrer des sons. Et là, c'est, en l'occurrence, c'est, comme dit, tu dis, c'était des jeunes qui parlaient, qui chantaient, qui s'exprimaient.
C'est vrai. Et moi, le constat que je fais, c'est que on dit beaucoup de choses vis-à-vis de la langue bretonne, c'est pas le même breton, etc. Moi, Aline Le Bot, d'un enregistrement fait en 1900, j'y vois pas beaucoup de différence avec le breton parlé aujourd'hui. Quoi.
D'accord.
C'est très clair, c'est très limpide. Un enfant qui est en classe bilingue, que ce soit Diwan ou dans une classe bilingue, je veux dire, va comprendre Aline Le Bot très bien.
Oui.
Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi.
Même ceux qui sont pas bretonnants, c'est vrai qu'on comprend, comme tu me disais, tu dis hier, on comprend les mots, enfin, genre, pévard, tout ça qu'on compte, enfin, ce genre de choses. Justement, puisque Bernard parle de cette, il n'y a qu'une seule langue bretonne.
Parce que il y a une langue bretonne.
Après,
il y a des parlers bretons. Donc, on va parler du parler bigoudin, du parler léonard, du parler trécorois, du parler pourlette, par exemple aussi, parler vanté, etc. Quoi. Mais oui, il y a une langue bretonne. Ouais.
Oui, c'est ça. Alors, du coup, on passe à ton choix musical. Tu dis, tu nous expliqueras aussi pourquoi. Bah, aujourd'hui, un petit peu, c'est la grève. Alors, nous, on est là en train de faire de la radio, mais on est. Pas de blabla et solidaire. Voilà, on va le dire, on va pas se cacher. Envoyez, monsieur Seb.
Il y a des pétroliers super qui foutent le deuil sur l'onde. Avec 10 hommes d'équipage, on s'en va au bout du monde. Avant il en fallait 30, c'était pas rentable. En voilà 20 au chômage, les prix seront plus supportables. Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, à la 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 l'air. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Assez travailler pour soi, la petite exploitation maintient l'Europe en retard. Hors de la compétition, il y a trop d'agriculteurs, c'est pas raisonnable. Quelques millions au chômage et le revers sera viable. Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tra-la-la-la-la-l'aire. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Et toi, petit commerçant, tu mourras de la TVA. Mais si on aide ces gens-là, la bombe, comment on la fera? Le petit commerce doit mourir, il n'est pas rentable. Va-t'en au supermarché, les prix seront plus abordables. Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tra-la-la-la-l'aire. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires.
Nantes, à Rennes ou à Brest. Du travail, il y en a guère. Ils voudraient rester chez eux. Alors comment faire? Déplacer toutes les usines, c'est complètement con. Eux qui viennent dans la capitale, pour le patron c'est plus valable. Mais de tous ces émigrants, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces émigrants, qu'est-ce qu'on va en faire? S'ils viennent dans la capitale, ralalalalère. Même en faisant plein de fonctionnaires, il y aura toujours trop de prolétaires. S'il y a trop de chômeurs, il y aura du désordre. Il faudra des policiers pour maintenir l'ordre. Hitler le disait déjà, un chômeur c'est pas rentable.
Eh oui, un prolo qui tape un prolo, c'est ce qu'on dit souvent à la sécurité dans les stades. Et puis aussi dans les manifs à une époque. T'es un prolo, tu tapes d'autres prolos, salaud. Tu dis pourquoi ce choix alors? C'est un petit peu.
Oh bah c'est vraiment par rapport à cette journée. Oui, oui, ouais. Oui. Quand il y a toutes ces personnes qui se mobilisent, qui vont perdre du salaire, hein, alors que les fins de mois sont déjà compliquées pour beaucoup de personnes, ouais, qui se mettent en grève pour défendre leurs droits, pour défendre une retraite décente, un peu de justice sociale. Mm. Bah moi, je trouve ça super. Super fort, quoi, tout ce qui se passe dans ce pays. Donc là, la chanson de Gilles Servat, je trouve qu'elle résonne énormément, quoi, avec l'actualité française.
C'est... On retrouve c'est très beaux choix. Vous avez fait tous les deux de très très beaux choix d'ailleurs. Les prolétaires de Gilles Servat. Gilles Servat, quand je faisais la radio, j'avais 15 ans. C'est l'un des premiers artistes que j'ai interviewé, c'était Gilles Servat.
Ah oui?
Ouais. Un mec très abordable.
Oui, oui.
Et très sympathique. Voilà. Les prolétaires, Gilles Servat, le choix de Tudy Kriger. On est donc ce matin dans Pas de Blabla. C'est la 13e, jeudi 23 mars. Avec, vous êtes peut-être en direct avec nous sur Radio Évasion. Ou alors aussi en podcast ou en rediffusion. Monsieur Seb à la réalisation technique. Le temps tourne, mais François, qu'est-ce que ça va? T'es un peu ému là. Comment? Tu vas bientôt entendre la voix de ta grand-mère quand même.
Exactement.
C'est fou, hein. Oui, excuse-moi. C'est évidemment de l'émotion. On peut pas se mettre à ta place, mais ça lui coupe un peu la chic, comme on dit. C'est compréhensible, Bernard, évidemment.
C'est complètement compréhensible. Hein. Tout à l'heure quand tu posais la question à Annick, qu'est-ce que ça te fait, etc. On retisse en fait des liens et ce que j'exprimais tout à l'heure par rapport à un manque de transmission de la famille parce que par rapport à la langue bretonne, etc., qu'on passe d'une honte de la langue à une fierté, bien sûr, je veux dire, on est impacté, paf, ça te fait dans le cœur comme un coup, mais je crois que c'est aussi un bonjour d'être aujourd'hui ensemble dans le studio de Radio Évasion, d'échanger de ça, parce que cette histoire, elle est tombée sur notre famille, elle aurait pu tomber sur une autre famille.
Oui.
Donc, on n'a pas choisi. Ce sont Sébastien et Aline Lebotte qui ont choisi de... Ça fait 123 ans de faire l'actualité. Il se trouve que, surtout Annick et François sont des grands témoins. Elles sont des grands témoins. Et c'est eux qui sont... en capacité, j'ai envie de dire, et affective et réelle, de nous donner des précisions sur cette histoire-là, de nous donner, voilà. Et ce sont tous les deux des gens de grand esprit, donc ils ne vont pas garder ça pour eux.
T'as connu, François, ta grand-mère, tu l'as connue?
Bien sûr, oui, ouais. Oui, j'ai connu ma grand-mère. Et comment...
Qui est décédée en 1970.
Oui, oui, oui. Et donc, je me souviens de ma grand-mère, et avec donc mon grand-père et les autres parlaient toujours. Et aujourd'hui, je comprends mieux, du fait qu'elle était reine des Bretons à Paris, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi...
Elle était reine des Bretons.
Elle était, oui, élue reine des Bretons.
C'est un peu comme une miss, en fait, c'est ça?
Oui, j'ai retrouvé dans les journaux de l'époque où elle avait effectivement eu un prix de beauté pour la beauté de son costume breton. Voilà. Il y avait eu un concours de costume breton et elle avait reçu un prix d'honneur. Après, on voit que justement, elle en était fière de ce prix.
Je détiens cela de ma marraine qui, elle, vivait à Cagres, donc Marie-Thérèse Glinec, qui était la fille de la deuxième fille d'Aline. Et c'est ma marraine donc, qui m'a parlé de ces choses-là également. Et mes grands-parents donc parlaient, et puis avec les voisins et tout ça. Ma mère parlait beaucoup moins breton, parce qu'à l'époque, elle leur disait toujours, oui, et c'est aujourd'hui que je comprends mieux, si vous parlez breton, vous n'irez jamais à Paris.
Ah ouais, c'est fou.
Alors que la langue bretonne est une langue tellement riche, tellement belle.
Oui, mais on se rend pas compte aujourd'hui, effectivement, même avec 123 ans d'écart, ou enfin, c'est difficile de s'en rendre compte aujourd'hui. Et c'est justement le travail des journalistes, comme tu dis aussi, de fouiller, de chercher. Parce que quand je pose des questions à Annie, quand je dis oui, mais qu'est-ce que tu ressens, etc., c'est parce qu'on a envie de savoir toujours. On a envie de comprendre. C'est vrai qu'on a envie de comprendre. Est-ce que tu as gardé, François, des habits? Il y a des habits de costumes de ta grand-mère?
Oui. Mes sœurs ont conservé également. De ma mère, ma grand-mère, la coiffe de Lélande, qui était la coiffe numéro 8.
Ah oui.
La coiffe numéro 8, qui était la coiffe de Lélande, qui était la coiffe également de...
Oui. Pourquoi de coiffe la numéro 8
qu'est-ce parce qu'il y a deux petits boucles sur la coiffe.
Ah oui, d'accord. Oui, je comprends. Ah oui. Ça ressemblait à un 8.
À 8, en quelque sorte.
Ah oui. Mais c'est vrai que nous, à Plougastel, Bernard, on est particulièrement gâtés avec les costumes de Plougastel. Oui. C'est particulièrement joli, un costume breton, quand même.
Oui, tout à fait. Et ce que j'ai envie de réagir à ce que dit François, là, sur est-ce qu'on a gardé des costumes, etc. Oui, ça, c'est une chose, mais moi, aujourd'hui, la question que je me pose sur tout ce bel héritage, c'est quel héritage on a, nous, chacun de nous, ou collectivement d'ailleurs, de Sébastien et Aline Lebotte, parce que Sébastien Lebotte était reconnu pour être un chanteur, la preuve, il a été enregistré sur une chanson en 1900. Mes trois tantes, dont je ne suis peu fier, et chacune d'elles chante ou a chanté ou s'est impliquée dans le monde du chant. Aujourd'hui, je veux dire, on découvre aussi que beaucoup de membres de la famille est ce qu'on ignorait. Ont des talents artistiques, tout ça avait été peut-être un peu caché avec les 30 glorieuses où il fallait être productif, il n'y avait pas de temps à perdre. Moi, qui ai fait toute ma carrière dans le monde du breton, bien souvent on m'a dit « Qu'est-ce que tu feras avec ton breton ?» Et pourtant, ça a été une ouverture d'esprit très grande. Ça m'a permis de me mettre à l'anglais. Ça m'a permis d'avoir des bases de portugais, etc. Donc, je crois qu'il faut voir aussi le côté bénéfique de cela, de la trace dont on a bénéficié dans cet héritage familial. Et je pense que François, mais il saura mieux le dire que moi, il peut être aussi le témoin de beaucoup de traces, de beaucoup d'éléments de ce qu'il a eu de ses parents, de ses grands-parents.
Voilà, et c'est ce qui a fait justement, c'est ce qui a fait qu'en 1962, avec le cercle celtique de Plouderne, où j'étais le sonneur donc de Cornemuse, le sonneur de Mignon, et donc nous avions décidé de le lancer la danse Kef. C'est une danse de ma famille, de la région de Plougéry-la-Martyre, la famille origine donc d'Aline et Sébastien Lebotte, Sébastien Lebotte. Et donc nous avions décidé de lancer la danse Kef, et avec Yvonne Lourd, donc de Plouderne, nous avons chanté pour la première fois en public donc la danse Kef. On a lancé la danse Kef et nous avons remporté ce jour-là, c'était en août 62, nous avons remporté le championnat de Bretagne de danse et de son à la Saint-Loup à Guingamp.
Bon. Bravo.
Voilà. Bravo, François. Donc, vous avez réussi. Bon. Donc j'apprends que c'est de mon arrière-grand-père que j'ai peut-être un petit peu un côté chanteur.
Également. Ah oui, voilà. Bah, exactement. Voilà.
J'adore la chanson bretonne, je chante très souvent, même tout seul.
Sans aucun doute,
très souvent, d'ailleurs. Et j'adore la chanson.
Ouais. Oui, oui.
La chanson, sur n'importe quel mot, vous prenez n'importe quel mot, vous trouvez une chanson, ou française, ou bretonne. C'est une richesse extraordinaire de notre pays breton. Conserve-la. Écoutez, vous regardez tous les noms des villages, tous les noms des communes, des villages, tout ça, mais il y a des très très jolis mots, des très jolies phrases, des très jolies, très belles régions. Hein, on va dire, un village, par exemple, à Spernguen, c'est le village des Aubépines Blanches. Vous voyez que c'est magnifique, il y a plein de choses.
Oui, c'est vrai.
Et ma petite fille apprend le breton actuellement, j'en suis très fier.
Ah, c'est bien, ça, c'est une belle chose. Vous avez compris que je suis dominé sur tous les niveaux ce matin, dans Pas de Blabla, à droite, à gauche, en défense, à l'attaque, au milieu, je suis absolument submergé. Monsieur Seb, on fait une pause, j'en peux plus là, je suis spectateur puisqu'acteur ce matin, mais c'est formidable, formidable.
Pad bla bla.
Pad bla bla.
Pad bla bla.
Pad bla bla.
De la foire avec ce... Ah, j'ai du mal avec ça, hein. La foire exposition universelle.
Exposition universelle de Paris.
Voilà, exposition universelle. Je veux absolument qu'elle ait foire quelque part. Donc, Men at Work, ça c'était plus dans les années 80, 1980 et pas 1883, année de naissance de Aline Le Bot, la grand-mère de François Le Brise. Bah, bon, bah voilà. Et, alors, bon, le tout, là, on a complètement explosé le compteur. Au niveau du temps, on est en direct, il va falloir supprimer un petit peu de musique. On préfère supprimer la musique que les paroles parce que c'est très intéressant, évidemment, très, presque bouleversant même ce que j'entends ce matin. On va, alors, donc, chers auditeurs, chères auditrices, on va écouter Aline Le Bot, donc l'exposition universelle de... Ah ouais, c'est terrible, hein ? Exposition universelle de 1900 à Paris, qui a duré 6 mois. C'est Bernès Cardaron qui m'a appris ça ce matin. J'étais... estomaqué quand j'ai entendu que moi je voyais un truc genre tiens tu vas au parc de Pinfeld un week-end
ouais.
Tu vois ben non pas du tout hein. Tu vas avec ton cheval et tu mets déjà 6 mois pour aller jusqu'à Paris et puis tu restes 6 mois à Paris et tu reviens et t'es parti 2 ans voilà en gros c'est ça on se rend pas compte mais bon donc voilà un extrait donc François, plus sérieusement, quand même, tu vas entendre ta grand-mère pour la première fois.
Tout à fait.
Je crois. Donc c'est en breton. Alors, dis-nous, tu dis ce qu'on va écouter, ce qu'on va entendre exactement, s'il te plaît.
Eh ben, on va entendre sur cet enregistrement, donc fait sur rouleau de cire. Il y a deux parties, en fait, sur cet enregistrement.
Ah, c'est des rouleaux de cire, hein.
Oui, oui. Donc, ça ressemblait, voilà, à des.
C'est étonnant.
En fait,
hein.
Vraiment le début de l'enregistrement sonore.
Ouais, c'est ça.
Et donc, on va entendre Aline Le Bot dire deux choses. Premièrement, la parabole de l'enfant prodigue, qui est un passage de la Bible qui était utilisé, en fait, comme un peu pierre de rosette par les linguistes pour faire des traductions de langue à langue parce que la Bible est encore aujourd'hui et était déjà en 1900 le livre le plus traduit au monde. Donc Léon Azoulay s'est servi de la Bible pour enregistrer le japonais, le berbère, l'allemand, l'anglais, etc. Et il y avait aussi la traduction de la Bible en breton réalisée par un pasteur gallois, c'est encore toute une histoire.
Ah oui.
Ouais, et qui voulait voilà, transmettre la
c'est
parole
fou, ouais.
De l'évangile en breton aux frères celtiques. C'était ça l'idée.
Ah oui.
Donc, donc Aline lit ce texte, ce livre, la parabole de l'enfant prodigue dans la Bible, et ensuite on l'entend dire des chiffres et des couleurs aussi en breton.
Et on entend, c'est la voix de Léon Azoulay qu'on entend
On entend un tout petit peu, oui, sa voix se présenter.
Qui dit des couleurs.
Voilà, c'est ça, ça c'est la voix de Léon Azoulay, oui.
D'accord, ouais. On n'a pas trouvé de photo de Léon Azoulay, mais on entend sa voix un tout petit peu.
Voix,
alors, ouais. Je vais vous demander d'être attentif, parce que le son, évidemment, date... énormément. Et oui. On entend le phonographe sans doute qui tourne.
Oui, c'est le roulement de tambour en quelque sorte.
On dirait un peu au début, tu te dis tiens, il y a comme des percussions. C'est la machine tout simplement.
Oui, c'est pas votre radio qui déconne.
Non, voilà. C'est pas, tapez pas dans le poste hein, si vous avez encore un poste. Envoyez la grand-mère de François Lebrize, Aline Lebot, en 1900 à Paris, monsieur Seb.
Le Léon, l'enfant
Alors François ?
Magnifique.
C'est incroyable.
Magnifique.
Incroyable, un silence dans le studio, on écoutait...
J'ai ma petite fille qui sera ravie d'entendre ça. Elle est à l'école, donc elle est au collège bilingue à Morlaix.
Ah, c'est génial.
Breton-français. Et donc, bien sûr, chaque fois qu'elle me rencontre, elle veut parler breton. Donc, avec moi.
Quel âge qu'elle a ?
Elle vient d'avoir 12 ans le 10 mars.
D'accord.
Elle habite ma petite fille qui est originaire donc de 6 ans, 5 à 12.
Et quelle trace pour la famille quand même. C'est...
Moi, c'est ça que je trouve super avec ces enregistrements, c'est ce pont qu'on dresse avec les générations précédentes.
Ben oui.
Et cette clé aussi qui permet, qui va peut-être permettre aussi à François et sa petite fille de discuter en breton, d'échanger. Oui. Et ça, c'est ce lien intergénérationnel. et cette relation humaine quoi, autour du son et de la langue bretonne que je trouve extrêmement émouvante. Ouais.
Nous retournons sur le pays de nos ancêtres parce qu'en fait, donc, en faisant la généalogie que je vais vous en donner tout à l'heure, nous sommes remontés, j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à l'abbaye d'Urleg, mais par contre, dans une autre branche de ma mère, donc de ma grand-mère d'Aline, nous sommes remontés également jusqu'au lac de Drenec. Le moulin Mininandrenec, qui est sous le lac de Drenec, était donc, c'était également une autre branche d'origine de ma famille.
Il y a un moulin qui a été recouvert par le lac.
Au lac de Drenec, oui. Mininandrenec.
D'accord, je savais pas.
C'est sur Saint-Calour, entre donc Sizun, Comana, Saint-Calour.
Oui, je connais, ouais, je vois bien. D'accord, ok. Annick, c'est émouvant, hein?
Oui, c'est émouvant parce que j'en découvre encore plus et je sens qu'on va découvrir encore plus avec François. Et c'est vrai que déjà, à la base, c'est Bernard qui a mis l'étincelle en trouvant Tudy. Et Tudy a été charmant avec nous lors des enregistrements, en fait.
Et Tudy a fait tout le lien entre tout ça et le travail. Bravo, Tudy.
Ça s'est passé en 3 jours.
Ouais. Oui. Oui, on a bu quelques cafés ensemble, quoi.
Ouais. Très bien.
Et du coup, tout ça, ça fait donc, comme tu disais, le lien, et puis en même temps, ça garde, vous allez garder un lien encore peut-être plus fort aussi, Bernard. Oui. Ouais.
Moi, j'ai envie de réagir par rapport à ce que vient de dire François, là, parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé toute ma carrière pour la défense et la promotion de la langue bretonne. Hein. J'ai fait 10 ans à Dibrand, j'ai fait 12 ans à directeur de SCED à Brest. Moi, je suis né en 59 et... j'ai participé à me battre contre des moulins, parce que très tôt, j'ai, pour des raisons qui me sont propres et dues à mon histoire, j'ai découvert que, en fait, on nous arrachait notre culture, notre langue, etc. Moi, je pense que la Bretagne a subi un génocide linguistique, hein, et que... on va dire, on va oser le mot, parce qu'on est dans un jour de grève aujourd'hui, le peuple, enfin nous là, et d'autres, et je veux dire, ben, on a la fierté de se réapproprier notre langue et nos cultures. Quand François dit, ben, moi avec ma mère, elle m'avait fait comprendre qu'à la Landerneau, il valait mieux parler le français, que dans les yeux de François, il dit... Je suis fier que ma petite fille apprenne le breton.
Ouais, bien sûr, ça prend aux tripes. Et on est tous très émus, effectivement. Comment, pour conclure peut-être là-dessus, tu dis tu es jeune aussi, bravo, parce que ça montre aussi que j'ai envie presque de dire que la réponse est... Et là, on l'a démontré durant toute cette émission, pas de blabla, le breton se porte bien aujourd'hui. La langue,
ça dépend quels critères on regarde, quoi.
D'accord.
Évidemment, en termes de locuteurs, il y a de moins en moins de locuteurs ou de locutrices, évidemment. Mmh. Mais il faut regarder le dynamisme. Et je crois que là-dessus,
ça reste très vivant, quand même.
Ouais.
Cette
et puis il y a vraiment l'attachement aux gens, de gens qu'on regarde. Il y a les écoles, mais il y a aussi les formations pour adultes. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent en formation pour adultes. Et ce qui moi me touche beaucoup et qui c'est vraiment un critère qu'il faut regarder, c'est comment les gens qui apprennent le breton sont intéressés aussi par comment les gens le parlaient aussi, et donc toutes ces relations. Moi, j'ai plein d'amis qui font des formations de breton et qui sont ensuite allés voir des anciens en maison de retraite, et donc c'est une relation, plein de relations humaines qui se créent grâce au breton, d'histoire du pays, de l'histoire populaire en fait de Bretagne qui se transmet grâce à la langue bretonne. Donc tout ça, c'est assez incroyable. Faut vraiment regarder le dynamisme, et là-dessus on a de quoi être plutôt positif, oui.
Ouais, et optimiste et ravi.
Bah oui. Moi, moi par exemple, je discute. La semaine dernière, j'ai passé 2 jours chez mon grand-père. Bah, c'était 2 jours en breton. J'ai vu ma grande tante aussi. C'était en breton. Et je crois que ce qu'il faut que on peut mettre tous les mots politiques, etc. Mais il faut vraiment voir que, en fait, ça apporte de la joie aux gens. Et je crois que c'est le plus important. La langue bretonne, on voit l'émotion de François, de Bernès, d'Annick. Voilà, ça apporte de la joie, du bonheur aux gens. Et c'est tout ce qui importe, quoi.
Voilà, et puis, même si moi, par exemple, je ne parle pas breton, évidemment, je me sens complètement breton et complètement solidaire. Et je regrette, finalement, aujourd'hui, mais... Il n'est jamais trop tard, peut-être, comme tu dis aussi, tu laisses entendre, tu dis qu'il n'est pas trop tard.
Il n'est jamais trop tard.
Il n'est jamais trop tard. Oui, des fois on dit aussi, n'est bien plus tard que vous ne pensez. Ça, c'est autre chose. Bien entendu. François, merci. Annick, merci beaucoup. Bernès, merci d'être venu de Plougastel.
Merci, Brache.
Merci, Brache.
Merci à vous aussi. Merci,
Brache. Tu dis Créquer, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci à votre famille. Merci, François. Merci, 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 merci beaucoup. Trougarès, on a passé un très bon moment tous ensemble dans Pas de Blabla. Merci, monsieur Seb. On se retrouve dans deux semaines. On sera avec Serge Montfort, ce sera de la bande dessinée, on va parler de tout poil et des blaireaux, de l'animal, le blaireau, voilà.
La louche.
Kenavo.
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 Je te donne le sujet du le filet. Ben, 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 ben